France Inter. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
On se tutoie ? Combien de fois avez-vous entendu cette invitation ? On se donne du « tu » de plus en plus souvent aux dépens du « vous ». Le tutoiement dans les offres d'emploi, par exemple, a doublé en 3 ans. Plus de la moitié des salariés affirment tutoyer leur N plus 1. On ne parle pas des réseaux sociaux où c'est devenu la règle. Alors le « tu » est-il en train de s'imposer aux dépens du « vous » ? Emmanuel Macron tutoie ostensiblement Poutine, Trump. Il l'avait même fait avec le pape François. Est-ce simplement parce qu'il transpose le « you » anglais en « tu » qu'il veut afficher une intimité avec ses grands personnages et quelle est la part de stratégie géopolitique? On l'entend, l'usage du tu et du vous est subtil. Il y a tout un tas de codes sociaux, mais aussi de l'affectif. C'est une façon de marquer notre rapport à l'autre et ça plonge au plus profond de nous. On a grandi dans le tutoiement, c'est ensuite que ça se complique face à une autorité ou tout simplement la première fois qu'on rencontre nos futurs beaux-parents. Alors qu'est-ce que ça raconte de notre société et de l'évolution du langage, est-ce une uniformisation ou au contraire une simplification bienvenue? Comment le « vous » résiste-t-il au Québec? Et c'est ce qui nous a donné l'envie d'évoquer ce thème avec vous ce soir. On vient de rétablir le vouvoiement obligatoire dans les établissements scolaires. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Zoé.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, merci de prendre mon appel. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le vouvoiement n'est pas encore désuet. Il est la marque, en fait, d'une distance assumée entre deux personnes. Par contre, ce qui me semble désuet et ce qui, moi, me dérange quand je l'entends, c'est quand il y a une asymétrie entre deux adultes, dont l'un tutoie et l'autre vouvoie. Ce qui pouvait, je pense, à une certaine époque être perçu comme quelque chose de très respectueux, en fait, une marque de respect envers la personne qui est vouvoyée, mais que moi, personnellement, je trouve à l'heure actuelle, me semble plutôt irrespectueux pour la personne qui est tutoyée. Et quand je suis témoin d'une conversation où l'un tutoie et l'autre vouvoie, ça me met vraiment mal à l'aise. Et je pense que c'est ça qui tombe. Alors, c'est pas très courant. Je pense que ça tombe en désuétude.
Eh ben, on va y venir justement avec nos invités. Bonsoir, Julie. Neveu.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Il y a aussi en face de vous Jean-Claude Delgène. Bonsoir.
Bonsoir.
Expert des risques professionnels en entreprise, parce qu'on va y venir aussi, il y a plein de choses à dire sur les entreprises. Fondateur du cabinet Technologia, auteur de Faire face aux risques psychosociaux. Et nous sommes aussi en ligne avec Étienne Kern. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à distance, professeur de lettres en classe préparatoire, auteur de « Le tu et le vous ». On est au cœur du sujet. L'art français de compliquer les choses, c'est publié chez Flammarion. Alors on a Zoé qui nous dit, en fait c'est l'asymétrie qui la dérange quand l'un tutoie et l'autre vouvoie. Julie Neveu.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites Zoé, puisque là je vous vouvoie et c'est la marque par défaut quand même pour une première interaction avec une personne. Déjà ça c'est pour aller dans votre sens du début. Je pense que le vouvoiement reste tout à fait la norme quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas encore et qu'on a un échange, une interaction avec cette personne. Et ensuite ce que vous soulignez Zoé aussi, c'est drôle parce que les premiers linguistes qui ont travaillé sur le sujet de ces pronoms d'adresse, tu et vous, qu'ils ont appelé la distinction T et V, comme ça vient du latin tardif où il y a tu et vos, enfin ces deux initiales, ces deux lettres, eh bien ils ont montré qu'il y avait une sorte de changement historique entre une logique qu'ils ont appelée la sémantique du pouvoir, qui avait lieu, qui prévalait dans l'ancien régime jusque et puis qui a commencé à changer avec la révolution, etc. Mmh. Et on est passé à une sémantique de la solidarité. Et la grande différence, c'est exactement ce que vous avez dit Zoé, c'est-à-dire dans le premier système, c'est la non-réciprocité, donc il y a une asymétrie et ça vaut évidemment dans toutes les sociétés, dans toutes les structures où il y a une hiérarchie très forte. Tandis que dans les autres milieux, on va vers un système donc de solidarité où il y aurait plus de réciprocité possible. Mais cette réciprocité, qu'elle soit possible, c'est assez récent finalement.
Le tu et le vous, ils viennent d'où ? On va commencer par faire un petit peu d'histoire.
Et bien justement, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent du latin tardif, mais pas le latin classique. En latin classique, la norme, c'était le tu, même César, on le tutoyait. Donc ça, c'est fou. Et ils viennent sans doute, c'est très difficile de savoir, mais du latin donc tardif, on a introduit un vous quand il y avait peut-être plusieurs empereurs. Donc ce serait un vous du pluriel. C'est-à-dire que, vous savez, notre vous, c'est le même. Si je vous adresse, si je vous dis vous, Christelle, bah, c'est un vous de pluriel. Alors qu'il y a plein d'autres langues qui, elles aussi, ont des pronoms d'adresse pour marquer la politesse, qui changent pour dire la politesse. Mais là, ce sera la troisième personne du singulier ou du pluriel. Par exemple, bah, en espagnol ou en italien, on a une troisième personne. C'est comme si je disais, Christelle, est-elle d'accord avec ce que je dis ? Et c'est notre façon de marquer ma déférence en sortant de la situation d'interlocution directe. En fait. Donc, il y a beaucoup de stratégies de politesse, en fait, et elles diffèrent selon les langues. Et les langues qui n'ont pas cette, cette façon de marquer à travers les pronoms d'adresse tu et vous, ou bien tu ou il ou elle, ont d'autres systèmes, comme des suffixes qu'on rattache à des noms, comme évidemment des formules de politesse. Enfin, il y a plein d'autres façons d'être poli, en fait.
Étienne Kern, est-ce que c'est l'anglais qui vient brouiller un petit peu les cartes aujourd'hui ?
Alors, je crois que sur la question de l'anglais, mon amie Julie est bien plus compétente que moi. Mais c'est certain qu'il y a, il y a un minimalisme pronominal en anglais qui est assez fascinant. Mais je rappelle quand même au passage que c'est un vouvoiement. En fait, c'est le tu qui a disparu en anglais, qui ne s'emploie que dans un contexte religieux, où il prend un sens extrêmement, comment dire, solennel.
C'est drôle parce que vous
comme
dites...
le tutoiement français.
Je vous en prie, pardon. Je vous laisse finir votre phrase.
Or, je disais simplement que le tu français est évidemment plutôt du côté de la proximité, de l'affection et de l'affectivité, alors que en anglais, ce fameux thou que je prononcerai mal, le THOU, ne s'emploie que dans un contexte solennel, religieux.
Julie Neveu.
Oui, en fait, jusque chez Shakespeare, vous savez, donc début du XVIIe, il y a le thou pour dire tu et le vous et l'alternance. Et toutes les insultes chez Shakespeare, c'est avec thou. Tuer un marchand de poissons, fishmonger, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le thou, bon, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi il a disparu. Mais donc, c'est le pronom pluriel qui l'a emporté, en effet. Et donc, il y a une neutralisation de ce sens possible, hein, de cette variation entre les deux. Et on explique sans doute que c'est parce que le thou, donc le tu, était trop coûteux dans les interactions, c'est-à-dire que c'était une prise de risque et qu'il était interprété comme étant excessivement familier. Donc en fait, on le vivait mal, c'était des situations de gêne sociale et finalement, il a été évacué entre le 17e et 18e. 18e, il n'y a plus du tout de thou. Donc c'est le you, la neutralité qui l'emporte. Et c'est vrai que c'est plus simple, pour répondre à votre première question, c'est plus simple, mais néanmoins, il y a d'autres façons de marquer du respect dans son corps, dans d'autres termes qu'on utilise.
Quoi. Jean-Claude Delgène.
Oui, je réagis à ce que dit Julie, parce qu'en milieu professionnel, le tu, effectivement, instaure une certaine proximité et expose aussi, quelque part, quand vous avez, par exemple, deux personnes qui sont de niveaux hiérarchiques différents, le tu fait que la personne qui est peut-être en demande de négociation, de revendication, peut plus facilement, avec le tu, poser son problème de revendication. Hein, là, effectivement, c'est tout à fait clair. Alors que quand il y a le vous, c'est quand même, il y a une distance et c'est plus compliqué d'aller négocier d'exiger, par exemple, une augmentation ou une valorisation, parce qu'il y a la barrière de la langue. Et donc, effectivement, le tu est peut-être plus coûteux en matière de, je dirais, de négociation pour ceux qui ont le pouvoir.
Mais le tu, il crée une fausse intimité dans le milieu professionnel ?
Pas toujours, parce que le tu, dans certains milieux professionnels, il est de rigueur. Vous allez par exemple conduire un camion, vous êtes recruté pour être chauffeur dans une entreprise, les gens, ils se tutoient tous.
Les mecs, vous allez dire.
Ouais, il y a très peu de femmes qui conduisent. Vous allez sur un chantier de BTP, c'est pareil. Vous avez des endroits où le tu, il est de rigueur. Tout au moins, dans le groupe. Parce que quand on commence à vous voir, c'est les cadres qui vous voient, voyez. Donc il y a une question de statut et de, je dirais, de différenciation, y compris par l'usage des pronoms.
Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci. Ouais, merci. Je voulais juste témoigner par rapport à ce mouvement, ce tutoiement. Moi, j'ai une petite fille qui a 9 ans, qui est en CM1. Et depuis sa tendre enfance, elle tutoie ses instituteurs, ses institutrices. Et moi, j'ai 47 ans, j'étais à l'école primaire dans les années 80-90. Et de cette époque-là, pas si lointaine, on vous voyait, nos instituteurs. Oui. À l'heure actuelle, les professeurs ont vraiment peu de leviers pour tenir en place une classe. Les punitions ne sont plus possibles. L'époque du petit coup de droit, de règle sur les doigts, je dis pas que c'était la bonne solution, mais c'est encore à des années-lumière. Et à mon sens, un des moyens de tenir une classe est de tenir aussi une distance qui ne veut pas dire manque d'efficacité de la part de l'instituteur, mais ce vouvoiement, à mon sens, créait une distance et imposer une sorte de respect. On a ça en France, on a ce mouvement, ce tutoiement, ça n'existe pas dans le monde anglo-saxon. À mon sens, ça serait un levier encore possible et j'ai entendu apparemment qu'au Québec, ça a été réinstauré, de
oui,
vous voyez les professeurs.
Oui.
Et à mon sens, vu que les professeurs et les instituteurs ont peu de leviers maintenant, cette petite différence au niveau de comment s'adresser à son instituteur ou son institutrice serait bienvenue.
Étienne Kern, c'est une question pour vous puisque vous êtes professeur de lettres en classe prépa. Comment ça se passe? Y a vouvoiement, vous, avec vos élèves ou pas?
En fait, c'est une relation qui est renégociée en fait à chaque fois entre l'enseignant et la classe. Je veux dire que tous les enseignants n'ont pas la même politique sur la question. Pour ma part, je vouvoie mes élèves et je suis vouvoyé par eux. Et j'apprécie cette réciprocité, cette sorte de quasi-horizontalité dans les pronoms.
Il n'y a pas d'asymétrie pour le coup là.
Voilà, je comprends très bien que des collègues fassent le choix de tutoyer leurs élèves, leurs étudiants, mais comme ils attendent a priori un vouvoiement en retour. Il y a quelque chose qui rappelle la question tout à l'heure posée par Zoé sur
l'asymétrie. Oui, absolument.
Cela dit, je crois que l'essentiel passe par ce qu'on dit, par le ton, et pas du tout par ce simple choix du pronom. Je pense, en vous parlant, à l'un de mes professeurs d'histoire en classe préparatoire que j'aimais beaucoup, qui est malheureusement décédé, qui nous tutoyait en classe, qui était très, très chaleureux de sa part parce qu'il émettait beaucoup, beaucoup de gentillesse. Mais lorsqu'il corrigeait une copie, et qu'il fallait dire que c'était pas très bon, et ben il disait vous n'avez pas compris le sujet. Et après il y aura la copie, oui, t'as fait un effort, c'est bien. Et il y avait quelque chose de je sais pas, de désarmant dans l'effort qu'on sentait chez lui pour jouer un peu au méchant avec ce vouvoiement qui était là pour rappeler la supériorité, la hiérarchie verticale, etc. Mais on sentait que le fond de sa nature était du côté d'un tutoiement affectueux.
Jean-Claude Delgen.
Oui, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Dans le milieu professionnel, par exemple, quand un DRH convoque quelqu'un pour le licencier, même s'il le tutoie avant ou régulièrement, lorsqu'il y a l'opération de licenciement, de sanction, eh bien c'est le « vous » qui va être employé.
Mais parce qu'il est obligé de le mettre à distance.
Est obligé de le mettre à distance, mais même y compris en matière judiciaire, le fait de licencier quelqu'un en le tutoyant, en faisant preuve de proximité, etc., pourrait être interprété comme un peu de cynisme. Vous voyez ?
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc c'est intéressant de noter que dans cette affaire, quand on doit s'éloigner de quelqu'un, quand on doit le sanctionner, effectivement, on va utiliser cette possibilité, ce levier.
Il n'y a pas de règle écrite dans l'éducation nationale, Étienne Kern ? Il n'y a pas de texte là-dessus ?
Non, je pense qu'il y a un usage tacite qui est plus du côté du vouvoiement, mais il n'y a pas de règle écrite. Par contre, je pensais en écoutant Jean-Claude, je crois, au code de la police, qui pour le coup a strictement interdit le tutoiement policier.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Le policier n'a pas le droit, en principe, de tutoyer quelqu'un pour des raisons juridiques.
Julie Neveu.
Oui, c'est que je voulais répondre à Stéphane aussi, qui faisait part de sa remarque et de son regret. Donc, je voulais vous rassurer, Stéphane, parce qu'en fait, il se trouve que cette distinction TV, donc tu-vous, elle arrive assez tard dans l'acquisition du langage. Qu'en fait, les enfants en primaire, ce que montrent les collègues qui travaillent un petit peu sur ces sujets, c'est que quand on a en dessous de 6, 7, 8 ans, vraiment, c'est difficile à comprendre. Que, qu'en fait, la politesse et le respect peuvent tout à fait, comme le disait Étienne très bien, passer par bien d'autres marques, que ce soit dans le ton, dans l'adresse, monsieur, madame, que ça, ils peuvent attendre. Ils savent donner des formules de politesse, évidemment, ils apprennent à dire s'il vous plaît ou s'il te plaît, d'ailleurs, ils s'embrouillent un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est de comprendre, de modéliser la relation sociale à l'œuvre qui va générer l'emploi du tu ou du vous, ben c'est trop tôt, en fait, en primaire. Mmh. C'est trop tôt et c'est bien pour ça qu'en fait, on demande à peu près aujourd'hui, je crois, au collège seulement, aux enfants de se mettre à vouvoyer leur professeur, puisqu'avant, c'est pas quelque chose qui est très compréhensible.
Mais vous pensez que c'est une distance qui est nécessaire à partir d'un certain âge pour les élèves?
J'imagine que c'est un code de plus qu'on peut intégrer. Moi, je continue à penser que c'est la réciprocité qui est plus importante et la déférence et le respect par d'autres. Ça n'a pas besoin d'être marqué à cet endroit-là du langage, quoi.
Bonsoir, Anne-Claire.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Oui, donc, moi, c'était juste pour un petit témoignage et justement, d'écouter la personne précédente, là. Moi, je vais souvent en Polynésie voir mes filles qui vivent là-bas. Et à Tahiti, on dit jamais vous, on dit toujours tu. Et par contre, on emploie beaucoup de petites expressions gentilles pour accueillir les gens, pour qu'ils attirent, qu'ils se sentent bien. Et je voulais dire que, voilà, c'est pas parce qu'on dit tu à tout le monde qu'il n'y a pas un respect, même une hiérarchie qui s'instaure. Ça passera jamais par le mouvement parce que personne l'emploie. Mais je pense que c'est pas du tout contradictoire et on se sent plus considéré, on rentre plus vite dans l'intime et,
ah bah c'est
et
ça.
Moi, à chaque fois que je rentre en France, je me sens perdue parce que je me sens plus anonyme et à chaque fois, ça me manque. Après, ça passe parce que voilà, on rentre dans sa culture et c'est normal. Mais c'est vraiment une culture, quoi. Le tu, le vous. Moi, pour moi, ça veut pas dire grand chose, sauf que quand c'est le tu pour tout le monde, je trouve que c'est pas mal, quoi, en fait.
Vous préférez le tu, vous trouvez que c'est
voilà.
plus simple
y a
et
pas,
plus direct.
Il n'y a pas de ségrégation. Pour moi, c'est un peu une...
C'est un tu ouais. universel, qui est finalement, pour vous, plus universel que le vous. Julien Neveu.
Oui.
Julie Neveu, pardon.
Je vous en prie.
N'importe quoi.
Non, ce que je trouve hyper intéressant, Anne-Claire, dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, vous ressentez comme plus intime donc ce tutoiement généralisé, mais en fait, vous ne le ressentez comme tel que parce que vous êtes encore habitué à cette variation entre le tu et le vous dans cette culture, comme vous le dites, donc c'est une question culturelle. Et si vous deviez vous installer et vivre longtemps là-bas, peut-être vous perdriez cette nuance d'intimité. C'est ça. En fait, le code, c'est Saussure, le premier grand linguiste, enfin, celui qui a fondé un peu cette science, qui explique que les signes valent dans une langue donnée, à un moment donné, par opposition les uns aux autres. Et donc là, aujourd'hui, notre tu vaut par opposition et différence avec le vous. Et même dans une situation, vous connaissez tous ces cas, moi, qui me font toujours rire, où je constate que des gens très bien élevés prennent le volant de leur voiture et se mettent à devenir complètement injurieux et à dire des insultes tout en disant tu la bouche, ta caisse.
C'est toujours tu, hein.
C'est
l'insulte,
toujours tu.
C'est toujours tu,
voilà,
direct.
Hein. C'est toujours tu. Et donc, c'est une ressource expressive qui est importante, mais qui ne vaut que puisqu'on a les deux en concurrence. Or, quand il y a un seul pronom qui crée cette adresse à la deuxième personne, donc comme en anglais, you, ça disparaît tout doucement. Donc je pense que si vous viviez même ne serait-ce que plus de quelques mois, vous perdriez cette sensation d'intimité. C'est intéressant, quand on entre, ce contact avec une autre culture fait ressentir ces subtilités.
À propos du tutoiement, j'ai cette citation de Milan Kundera dans l'un de ses livres, La plaisanterie. Son personnage avoue son aversion pour le tutoiement et il écrit ceci: le monde où le tutoiement est d'usage n'est pas un monde d'amitié générale, mais un monde d'irrespect général. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne Kern?
J'en pense que Kundera, historiquement, vient du bloc soviétique. Et donc, dans ce tutoiement obligatoire, en quelque sorte, il entend quelque chose qui devient violent, qui devient maltraitant dans la fausse réciprocité, alors que finalement, un rapport de force très fort se joue là. Et d'ailleurs, historiquement, c'est fascinant de voir comment ça se passait en Russie à l'époque de la révolution bolchevique, puisque la première décision prise par les bolcheviques consistait à interdire le tutoiement à l'armée d'un inférieur par un officier. Mais une fois que les commissaires du peuple ont installé leur pouvoir, ils ont exigé à leur tour d'être vouvoyés, perpétuant finalement cet ancien système, cette sorte d'hypocrisie d'un tu qui était là pour les autres, mais qui devait garder bien au soleil cette petite place réservée à une élite. Et on sait que Lénine se faisait vouvoyer, et on sait même qu'à l'époque du Parti communiste français dans les années 50, une consigne avait été passée interdisant de tutoyer les grands camarades comme Maurice Thorez, par exemple.
Ça fait beaucoup rire, Julie Neveu. Julie Neveu, les révolutionnaires ici, 1793, oui. Il y a eu un décret
oui.
pour interdire le tutoiement qui
n'a pas vraiment marché.
Qui n'a pas été
non,
appliqué,
mais je
en
pense
fait.
Qu'on ne peut pas faire de contraintes aussi fortes politiquement, aussi brutales, c'est-à-dire que c'est très difficile de contraindre à changer des usages qui sont installés. Donc, c'est vrai que les idéologies égalitaires aiment bien promouvoir le tu, et on comprend mais malgré tout, bien, il y a la contrainte de l'autre côté. Après, ça devient comme ce que Barthes décrit comme une langue fasciste. Vous voyez, on est obligé d'emprunter ce qui nous est pas, en fait, pas naturel et n'est pas inscrit dans nos usages. Donc, c'est très difficile. C'est arrivé en Suède, cependant, qu'il y ait un changement vers le tu, vers le doux, qui n'était pas porté par politique enfin, il était un peu porté politiquement, mais aussi culturellement. Il y a une influence très forte d'un ministre, je crois, pas dire de bêtises, mais qui est arrivé et qui a dit c'est très compliqué parce qu'ils avaient un système de politesse qui était très compliqué avec trois pronoms d'adresse. Et il a dit simplifions, moi je vais dire d'où si vous voulez bien, tu. Et tout le monde, apparemment, la culture suédoise, assez vite, s'est fait assez rare, s'est emparé de cette proposition et a plus ou moins délaissé les autres formes, plus marquant plus le respect.
On a Doris qui habite à Bruxelles et qui nous dit chez nous on tutoie tout de suite, ici le vouvoiement m'agace, surtout quand on me dit que c'est par respect pour les aînés, à chaque fois que je prends un coup de vieux, je propose un compromis à la belge, on commence une conversation en vouvoyant, on la termine en se disant tu et pour toujours. C'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'on a quand même du mal à trouver la bonne distance. Jean-Claude Delgen, dans n'importe quelle conversation il y a toujours un moment où on ne sait plus quel pronom choisir.
Tout à fait, d'autant que, encore une fois, il y a d'autres marqueurs hiérarchiques, il y a des expressions qui peuvent perturber. Je voulais revenir simplement sur un point qui a été exprimé tout à l'heure, sur la question du « tu » et de la violence. On peut aussi être extrêmement violent avec le « vous ». J'étais tout à l'heure en train de raconter à Julie, en fait, une situation qui m'était arrivée il y a quelques années. J'étais en relation avec une relation amicale assez forte, et on s'était fâché parce que, bon, pour différentes raisons, cette personne était conseillère ministérielle, j'avais milité pour la création d'un observatoire des suicides, elle était contre, elle protégeait son ministre. Bon, au final, ça s'est fait. Donc, quand je l'ai revue, je lui tends la main, en fait. J'étais vraiment dans une relation d'amitié, je lui dis peut-être ça serait-il bien que l'on puisse déjeuner ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne me regarde, me dit, vous n'y pensez pas, il faudrait encore que nous ayons quelque chose à nous dire. Vous voyez, donc la violence que ça avait concentré, et là j'ai compris combien je l'avais blessé en menant en fait cette opération jusqu'au bout, à laquelle je ne pouvais pas renoncer. Vous voyez, donc le vous peut être aussi extrêmement violent. C'est pas simplement, ça dépend vraiment, comme le disait tout à l'heure Monsieur Kern, du ton, de la posture, de la communication non verbale qui peut s'exprimer, et qui peut accompagner une violence psychologique forte.
Julie Neveu.
Oui, et pour revenir au témoignage de Doris, c'est ça, je crois, belge. Oui. Témoignage belge. Non, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que je pense que c'est une situation assez commune où une personne prend mal qu'on la vouvoie, c'est quand il l'interprète comme reflétant l'âge.
L'âge.
L'âge. Mmh. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé que une collègue plus âgée soit contrariée, que je pense à la vouvoyer. Or, je pense que c'est quand même un des facteurs, quand même une des variables d'ajustement qui fait qu'on vouvoie encore, c'est vraiment l'âge, et c'est peut-être parce que c'est intégré à l'enfance. En effet, la différence d'âge provoque le vouvoiement, mais donc c'est vrai qu'il y a une logique d'exclusion qui peut s'adosser à ça, et qu'on peut ressentir comme tel, quoi. C'est une façon de se sentir exclu de la communauté des plus jeunes locuteurs.
Étienne Kern, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors sur plusieurs choses, je pourrais réagir. La logique d'exclusion, finalement, on parlait tout à l'heure de l'exemple de la Suède. C'est vrai que le tutoiement est devenu absolument hégémonique, mais il semblerait que depuis quelques années, la jeunesse réactive un pronom qui était un peu tombé dans l'oubli, qui est le pronom « ni », qui sort de vouvoiement, et que la jeunesse l'applique justement pour les personnes âgées, pour exclure ou pour au contraire renforcer un sentiment d'appartenance à une même communauté du côté de la jeunesse. Mais il y a une forme de retour paradoxal du « vous », alors même qu'on a l'impression que tout avance vers le tutoiement. Et j'enchaîne, si vous voulez bien, vers une deuxième petite histoire. C'est pas une affaire d'âge, mais vous savez, pendant longtemps, en français, l'usage est encore assez souple, et on pouvait assez facilement passer du « tu » au « vous » au XVIIIe siècle sans que ce soit une fausse note.
Et on dans a la dans même conversation, Napoléon, vous voulez dire?
Oui, même, comme en Belgique, ou la même lettre, ou voilà, le même discours. Dans la correspondance de Napoléon, il y a une lettre absolument délicieuse qu'il adresse à Joséphine, à l'époque où il n'est que général Bonaparte, etc. Et il a trouvé la lettre de Joséphine un peu froide, mais il faut dire qu'elle était déjà en train de le tromper. Bon, peu importe. Il y a un contexte. Et il sent qu'il y a une distance du côté de la femme. Et il écrit « Dans ta lettre, tu me traites de vous toi-même.
» C'est génial. Mmh. Allez, on parle du « tu » et du « vous » ce soir, et de ce tutoiement qui gagne du terrain sur le vouvoiement. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le téléphone sonne sur France Inter. Et bonsoir Laurence.
Bonsoir. Moi, je vous appelle pour faire part de mon expérience. J'ai entre 60 et 70 ans, on va dire. Et donc, j'ai été élevée en vous voyant mes parents. C'était déjà exotique à l'époque. Hein. On était les seuls enfants à vous voyer nos parents. Et quand mes enfants sont nés, c'est posé la question de savoir comment ils s'adresseraient à leurs grands-parents. Sachant que mes parents y tenaient beaucoup, eh bien, elles ont appris à les vouvoyer. Alors, je pense que ça n'a pas été compliqué dans la mesure où nous-mêmes nous les vouvoyons. Donc c'était sans doute par imitation, mais je précise aussi que mes filles nous tutoyaient, leurs parents nous tutoient moi-même et leur père, et elles ont vraiment fait cet apprentissage sans aucune difficulté. C'était pour revenir sur ce qu'avait dit l'intervenante précédemment.
Laurence, vous, ça vous a posé un problème de vous voyez vos parents ou pas du tout?
Absolument aucun. On s'en était même pas vraiment rendu compte. C'est surtout le regard des autres, et parfois nos camarades nous disaient « Ah bon, tu vois tes parents ?» Même encore, des gens qui m'entendent leur parler nous font la remarque, mais bon, maintenant, on est grand. on n'a pas été traumatisés pour autant. Hein. Mm-hmm. Et mes filles ne sont pas traumatisées. Bon, elles sont de jeunes adultes maintenant, et elles ne sont pas du tout traumatisées en vous voyant leurs grands-parents, en tutoyant leurs parents. Et elles ont toutes petites fait la différence, la distinction entre les adultes d'une manière générale et leurs proches.
Mmh. Julie Neveu.
Mais merci Laurence de votre témoignage. Mais je pense qu'en effet, comme vous l'avez très bien dit, c'est par imitation et par mimétisme. Et ma question, est-ce que vous pensez qu'elles ont compris? Est-ce qu'elles s'adressaient également à d'autres adultes en les peut-être plus âgés, en les vouvoyant, ou bien est-ce que c'était réservé à vos parents? Parce que a priori, il me semble qu'en effet, c'est un peu différent d'apprendre comme un code qu'il faudrait répéter plutôt que de savoir. Vous voyez, c'est un peu le nom des grands-parents de leur dire vous. Vous voyez, c'est une habitude qui se fige. Donc c'est assez différent et c'est normal que ce n'ait pas posé de problème. En revanche, si vous me dites qu'en effet, elles arrivaient tout à fait à comprendre quand est-ce qu'il fallait dire tu ou vous en dehors de ces personnes identifiées, ça me paraîtrait plus étonnant. Mais bien sûr que c'est pas en tout cas problématique. Et pas traumatisant, puisque c'est une norme. Et la norme, vous intégrez une norme au moment où vous intégrez des habitudes linguistiques entre vous, entre gens familiers d'une même famille. Et donc, c'est normal que ça ne pose pas du tout de problème.
Et c'est quand même devenu extrêmement rare.
Disons que c'est stigmatisant socialement. J'imagine qu'on vous a dit que vous deviez avoir
On a plus Laurence en ligne. Étienne Kern, vous confirmez? Je crois qu'il n'y a plus que... elle est là? Oui, Laurence, on attendait votre réponse alors.
Je voulais répondre justement en spécifiant que, par exemple, elle tutoie leurs autres grands-parents. Mmh. Elles ont toujours tutoyé leurs autres grands-parents. Mmh. Elles ont toujours fait la distinction entre les deux pères.
Mmh. Étienne Kern, on dit qu'il n'y a plus que 20 000 familles en France, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, où l'on se vouvoierait.
Oui, ce sont les Pinson Charlot qui ont fait une étude sur cet usage. Donc, c'est une pratique sociale qui est évidemment résiduelle, même s'il semblerait que certaines jeunes familles choisissent volontairement d'employer un vouvoiement alors que précédemment, ils tutoyaient leurs propres parents. Mais d'une manière générale, c'est plutôt une survivance. Au début de l'émission, Julie rappelait ce grand basculement historique entre une sémantique de pouvoir et une sémantique de solidarité qui se joue au 18e-19e siècle. Et finalement, vous voyez ses parents, c'était la seule possibilité jusque vers 1780-1800. L'idée de tutoyer ses parents, ça vient grosso modo avec les Lumières et ça vient surtout avec la Révolution française qui va aussi révolutionner la famille, la conception du rapport à l'autre. Mmh. Et ça, c'est fascinant de voir dans l'histoire, dans la littérature, comment ça évolue. Voilà.
Comment on en arrive? Oui, Jean-Claude Delgène.
Oui, sur la question du retour au vous, là, je voulais un peu intervenir parce que nous, on a fait une étude il y a 2 ans et demi sur la romance au travail qu'on a publiée en février 2024 pour la Saint-Valentin. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait eu quand même une incidence de MeToo, en particulier sur les relations amoureuses au travail, très forte. Mais en fait, on s'aperçoit que les femmes, aujourd'hui, en entreprise, sont très contentes qu'il n'y ait plus, par exemple, l'obligation de faire la bise, l'obligation d'être rapprochées, et y compris le fait de le tutoiement et le vouvoiement, l'usage du vouvoiement permet aussi de mettre un peu à distance et de se protéger de parfois des situations un peu lourdes, un peu de drague, etc.
Oui,
et
donc, mais les hommes ont quand même tendance à tutoyer plus facilement les hommes, femmes en voilà. entreprise que l'inverse.
Ah, tout à fait.
Ça reste vrai, ça.
Tout à fait, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Les hommes utilisent le tutoiement beaucoup plus facilement, d'ailleurs y compris parce qu'ils sont beaucoup plus entreprenants dans les relations vis-à-vis de la gente féminine. Et donc, ils utilisent plus le tu. Et les femmes tentent, justement, avec le vous, de se garder un peu à l'écart de ces tentatives.
Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir.
Vous utilisez le vouvoiement, mais pas dans n'importe quelle situation.
Oui, alors c'est effectivement étonnant, d'autant que ça se relie à ce qui a été dit juste avant.
Oui.
Parce que moi, j'ai une amie très proche avec qui est une ancienne collègue et avec qui le vouvoiement sert surtout dans des phases de sensualité ou d'intimité. Alors on s'écrit aussi par d'autres moyens, notamment des lettres. Et on a tous les deux une trentaine, quarantaine d'années. Mais le vouvoiement, on l'utilise, nous, dans des configurations de complicité et d'intimité qui sont une forme de déférence un petit peu, pas tant du respect que une relation à l'altérité qui est plus romanesque et plus effusive dans sa forme d'expression. Ça ouvre d'autres champs d'expression, en fait. Plus littéraires et plus intellectuels, qui permettent d'autres fusions dans les échanges.
Oui, bien sûr.
Et ce vouvoiement-là est à contre-temps un peu des réseaux sociaux et du tutoiement très invasif, très anglo-saxon.
Et vous voulez dire que c'est un...
Je n'est pas assez entendu.
Raphaël, c'est un vouvoiement érotique aussi.
Oui, tout à fait.
Julie Neveu.
Oui, le vous est tout à fait propice et connu pour pouvoir être utilisé comme une ressource érotisante, en effet, dans un couple. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, hein, Raphaël, il y a une distance qui est réinstaurée, il y a l'imaginaire qui peut se déployer de nouveau, on perçoit de nouveau que cette personne qu'on a face à nous, qui est pourtant si intime, si familière, eh bien, redevient cet être mystérieux dont on a pu tomber amoureuse ou amoureux, et donc il y a tout un monde qui se réouvre de possibilités, c'est sûr. Donc je pense que il faut avoir une certaine, je pense, assumer un certain jeu érotique pour pouvoir essayer ce « vous » à l'intérieur d'une relation intime. Mais c'est sûr que, oui, c'est tout à fait propice à recréer une sorte de... évidemment de distance et aussi de désir, puisque le désir, pour se déployer, vous savez, a besoin d'un petit peu d'espace. Donc si on est collé complètement à l'autre, peut-être le désir se manifeste moins facilement.
Étienne Kern, de toute façon, l'emploi du « tu » ou du « vous » modèle la relation qu'on a à l'autre.
Oui, mais surtout dans un contexte amoureux ou affectif ou sensuel, comme on l'a entendu. Je pense à une phrase très belle de Michel Piccoli, à l'époque où il était l'époux de Juliette Gréco, et il la vouvoyait. Et un jour, un journaliste l'interroge et il dit que dire « vous » à la femme qu'on aime, c'est comme une vie en plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on tutoie, il y a des gens qu'on vouvoie, et on est deux personnes différentes. On joue deux rôles différents, même au sein du même couple, parce qu'on peut tout à fait envisager, et tout à l'heure, le témoignage évoqué Raphaël parlait d'une complicité, on peut tout à fait envisager que à certains moments, la complicité soit du côté du tutoiement, une sorte de camaraderie, et de l'autre, de ce vouvoiement sensuel, artificiel, érotique, etc. Donc, on dédouble le rapport à l'autre, et on choisit quand on passe d'un code à l'autre. On a cette liberté de réinventer la relation à l'autre et notre langue finalement ne nous laisse pas tant de liberté que ça. On a une grammaire assez stricte et là on a une magnifique liberté dans ce choix entre le tu et le vous, et c'est bien pour ça qu'il serait dommage qu'à un moment on aille vers un seul pronom d'adresse.
Mais justement, pourquoi le tutoiement a-t-il gagné autant de terrain dans notre société, Jean-Claude Delgène ? C'est arrivé par le management ?
Je pense que c'est lié aussi aux générations. Les jeunes arrivent en entreprise, en général, ils doivent apprendre le vouvoiement quand ils arrivent très souvent en entreprise. Dans les endroits normés, en fait. Hein. Donc, je ne parle pas des start-up qui sont créées. Mais dans les grandes boîtes, c'est quand même assez figé encore. Et donc, il y a le boss, il y a le N plus 1, N plus 2. Et donc, très souvent, c'est le vous qui l'emporte. Et le vous est obligatoire. Et donc, les jeunes réapprennent. Mais ceci dit, il y a une telle, aujourd'hui, profusion sur les réseaux sociaux. Le langage, le tu, a tellement progressé.
Quand on voit que même dans les offres d'emploi,
Ouais.
On s'adresse aux personnes en leur disant « tu », c'est assez étrange. On n'aurait pas imaginé ça il y a 10 ans.
Alors, c'est pas toutes, hein, parce qu'une grande partie des offres d'emploi, il y a le « tu » qui progresse, mais le « vous » reste quand même très, très présent. Très présent. Ça dépend des postes que vous offrez. C'est vrai que si vous ciblez par exemple des commerciaux, si vous ciblez
À qui on s'adresse une
absolument,
fois de plus, en fait.
Parce qu'il y a certains postes, le « vous » reste quand même la norme.
Julie Neveu.
Oui, moi je suis pas sûre en fait que le tutoiement progresse, enfin qu'on puisse décider, enfin en tout cas affirmer que le tutoiement l'emporte vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des milieux, notamment entrepreneuriaux, où il devient un peu la norme et un peu imposé.
Non, mais c'est cool dans les startups, mais
voilà, c'est ça. Voilà. Mais dans la vie réelle, finalement, je crois que le vous est encore tout à fait utilisé. Et en revanche, il y a des milieux. En effet, peut-être que cette annonce, moi, je voudrais savoir quelle est cette annonce d'emploi. Mais est-ce que c'était dans un milieu associatif, peut-être, où là il y a plus de tu. Ouais. Tous les milieux qui valorisent la solidarité, les milieux un peu rock, culture, piercing, etc. S'il s'agit d'aller se faire piercer, là, on vous tutoie direct au théâtre. Il y a des milieux où
nous, dans notre métier ici, tout le monde se tutoie.
Exactement.
Vrai, de manière très naturelle.
Ouais.
Jean-Claude Delgène, vous
voulez dire quelque chose? Il y a des milieux où on n'échappe pas au tutoiement. Et il y a des endroits où... le vouvoiement reste la règle. Vous prenez, par exemple, on en parlait tout à l'heure de la police, mais vous avez aussi, dans la fonction publique, plus généralement, une règle quand même qui reste celle de la distance, du respect des codes, du respect de la hiérarchie.
Plus on monte dans la hiérarchie,
voilà.
Et plus il y a...
Vous verrez pas, y compris dans le domaine médical ou dans les directeurs d'hôpitaux, les grands toubis, ils se font vouvoyer. Hein.
Allez, on va prendre Marie-Thérèse pour finir. Bonsoir Marie-Thérèse.
Bonsoir à tous et merci pour vos émissions. Voilà, moi j'ai 68 ans et je fais partie d'un club de randonnée en Ardèche. Et dans ce club de randonnée, il y a des gens de tout âge et des gens assez âgés et avec qui on se tutoie. Tout le monde se tutoie, c'est sympathique, c'est comme ça. Et on ose se tutoyer sans problème. Or, ce qui est quand même particulier, pour moi en tout cas, c'est que quand je vois certaines de ces personnes en dehors du club, je vais les vouvoyer par contre.
Ah, c'est drôle ça.
Pas. Oui.
Et pourquoi?
Parce que il y a des gens à qui je parle pas énormément, c'est juste de la petite conversation pendant notre rando, mais on se dit tu, et donc on se connaît pas quand même suffisamment pour, surtout des gens un peu âgés, même si moi j'ai déjà 68 ans, des gens un peu âgés où je ne me permets pas en dehors. C'est plus pareil, je retrouve mon cadre habituel, je ne suis plus dans le contexte de ce petit club de randonnée, voilà.
Étienne, merci Marie-Thérèse. Étienne Kern, vous souhaitiez intervenir?
Oui, merci Marie-Thérèse, vous avez employé le mot de contexte, et c'est ça la clé finalement. Dans le contexte de randonnée, il y a ce partage autour de cette activité joyeuse qui appelle le tutoiement. Dans un contexte différent, les règles deviennent autres. Dans la littérature française, il y a un exemple absolument magnifique dans Aurélien d'Aragon, un roman qui met en scène Aurélien, qui est un grand bourgeois, riche, rentier, etc., qui à un moment va à la piscine. Et il a un maillot de bain dans la piscine, dans l'eau, et il croise un certain Riquet, qui est ajusteur-fraiseur, qui vient du peuple, qui est un ouvrier. Mmh. Et les deux hommes se tutoient. Et ils sympathisent. Et en sortant de l'eau, ils décident d'aller boire une bière ensemble. Et en sortant de l'eau, alors qu'ils sont passés par leur cabine, Riquet se rend compte que Aurélien a des beaux habits de riche. Et là, d'un coup, il se met à vouvoyer. Et ça crée une douleur chez le personnage d'Aurélien, qui sent qu'il y a une sorte de faille tragique comme ça, qui est sûrement celle qu'Aragon, le communiste grand bourgeois, en fait, devait éprouver lui-même. C'est d'une finesse sociologique et psychologique.
Absolument, mais de toute façon, c'est toujours sociologique. On l'a bien compris à travers, on arrive à la fin de cette émission, tout dépend du contexte, évidemment, et le vouvoiement a encore de beaux jours devant lui. Hein, voilà.
Fait.
Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, c'était passionnant.